おかしいおかしい、おかしい。
Il est 16h40, qui c'est ça, le magazine Dialogue en fait congolais, c'est l'équipe La Mondo et ça la présente aussi.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réforme du secteur minier, l'ONG Global Witness propose un programme au gouvernement congolais. C'est le thème autour duquel va tourner l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Quelles sont les raisons qui militent pour la réforme du secteur minier congolais? Comment le secteur minier peut participer au développement de la RDC? Ce sont les deux questions qui vont alimenter les débats tout à l'heure. Nos auditeurs continuent à réagir. Neker Amadi de Kindu dans les Maniema estime que si l'on veut réellement réussir la réforme du secteur minier congolais, il faudrait d'abord remettre sur la table les rapports Lutundula. Kubaka Floribert de Chabunda au nord et au sud Kivu estime que l'État congolais doit lutter contre l'exploitation illégale des minerais pour la bonne réforme du secteur minier. Desservi Kalinga Kananga dans le Kasaï occidental pose une question: quelles sont les stratégies que l'ONG Global Witness propose pour la réforme du secteur minier, se demande-t-il. Robert Baomé à Bukavu dans le sud Kivu pose cette question: sur quoi pourra porter la réforme du secteur minier proposée par Global Witness à la RDC? Dieu bénit Lolé à Aourou dans la province orientale dit ceci: certes, on ne peut pas négliger le minerai, un héritage de nos ancêtres qui malheureusement n'enrichit qu'une catégorie de personnes haut placées. Kizester de Boutembo dans les Nord Kivu abonde dans le même sens que Dieu, mais Dieu bénit Lolé en posant cette question: croyez-vous que le gouvernement peut arriver à réformer les secteurs miniers en dérangeant les intérêts de la minorité qui en profite au détriment de la population? Pour aborder ce thème, nous avons trois invités ce soir. Karina Terchakian, responsable du programme RDC pour Global Witness. Elle est au téléphone depuis Londres, en Grande-Bretagne. Joseph Obia, coordonnateur du réseau des ressources naturelles en RDC, il est au téléphone. Monsieur Lems Kamonia, expert économique et chargé des projets au COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, il est au téléphone.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Programme de réforme proposé par dans les secteurs des ressources naturelles en République démocratique du Congo, c'est ainsi que s'intitule les rapports de l'ONG Global Witness. Comme on peut le constater, ce rapport programme ne concerne pas que le secteur minier, mais il se concentre sur les ressources naturelles, notamment les minerais et les bois. Après avoir abordé à deux reprises les secteurs du bois avec l'exploitation forestière, Dialogue entre Congolais a choisi cette fois de parler du volet minier. Une fois, nous n'aurons pas ce soir ni ministre ni vice-ministre des mines. Parmi les invités, ces derniers se sont excusés car ils devaient participer au conseil des ministres. En tout cas, c'est la raison avancée par son excellence le ministre des mines. Quelles sont les raisons qui militent pour la réforme du secteur minier congolais? Avant de débattre de ces sujets, je vous propose de suivre les condensés du rapport programme de Global Witness avec vous, Claude Tianzalokangu.
Selon l'ONG Global Witness, malgré ses nombreuses richesses minières, la RDC figure encore parmi les pays les plus pauvres au monde. Tenez, le Congo démocratique occupe la 167e place sur 177 pays selon l'indice du développement humain 2010 des Nations Unies. Autre constat, c'est que les différents groupes au gouvernement passé, y compris celui de transition au pouvoir en 2006, se sont concentrés sur l'exploitation des ressources naturelles à des fins d'enrichissement personnel. Ce rapport cite les différentes pratiques enregistrées dans certaines transactions offrant des bénéfices financiers considérables à certains politiciens et à leur entourage. Pour réformer ce secteur, Global Witness propose quelques pistes de solutions, notamment veiller à la transparence et à l'équité des contrats miniers. Ainsi, cette ONG soutient que le rapport Lutundula ne devrait pas être enterré. Il faudrait, selon Global Witness, enquêter sur les contrats réputés illégaux et, s'il y a lieu, les révoquer ou les modifier. Parmi les autres propositions, il faut éradiquer la corruption et promouvoir la transparence. Motif, mettre fin au pillage et à l'exploitation illégale très répandue de ressources naturelles de la RDC. L'ONG se réjouit du reste de l'engagement du nouveau gouvernement à travers le contrat de gouvernance de février 2007 à mettre fin à l'impunité et à rétablir la primauté du droit. Global Witness recommande aussi de veiller aux intérêts des populations locales, leurs droits droits sont souvent bafoués par les autorités, les membres des forces de sécurité, les ministres et autres acteurs. Autre proposition, améliorer les conditions de travail des ouvriers artisanaux. Par ailleurs, cette ONG recommande aussi de développer le traitement des minerais sur place avant leur exportation. Cela ferait gagner au pays d'importantes recettes dégagées suite à la valeur ajoutée des minerais traités avant d'être exportés.
Merci Claude. Karina Tertiakien, responsable du programme RDC pour Global Witness. Y a-t-il d'autres constats à part ceux énumérés par notre confrère Claude Chanza? Allô? Allô? Visiblement, Madame Karina n'est pas avec nous au téléphone. On va tenter de la rejoindre. La question à d'autres invités, Monsieur Joseph Bobia, vous êtes coordonnateur du réseau des ressources naturelles en RDC. Peut-être avez-vous eu le temps de pouvoir parcourir un peu ces rapports, programmes des Global Witness. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que notre confrère vient d'énumérer, les constats qu'il fait global et les propositions qui découlent de ces rapports?
Oui, merci. J'ai parcouru le rapport. Je l'ai lu cet après-midi. Effectivement, il y a beaucoup de points qui reflètent bien la situation qui est la nôtre en RDC.
Uh-huh.
Beaucoup de points.
Ok. Merci, Monsieur Lens Kamonia. Vous êtes expert économique et chargé des projets au COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. C'est la même question que je vous pose.
Oui, j'ai bien suivi l'exposé fait par Claude Kianza, mais je crois qu'il faut distinguer deux choses. On ne doit pas parler de la réforme du secteur minier en évoquant quelques cas de contrats léonais qui ont été signés par-ci par-là, ou certaines pratiques qui se passent dans le secteur minier parce que l'État n'arrive pas à imposer l'effectivité des lois ou à faire respecter convenablement la loi pour qu'on parle de la réforme du secteur minier. Et je crois que dans ces pays, c'est depuis 2001 que le gouvernement a mis en place une nouvelle politique minière qui consiste à attirer des investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux, à transformer les ressources potentielles minières en ressources réelles afin de faire le secteur minier le fer de lance de l'économie congolaise. Et cela s'est traduit par la mise en place d'un nouveau code minier en 2002 qui a été suivi par la mise en place d'un règlement minier. Ça, c'est au niveau du cadre légal et institutionnel. On a mis en place de nouveaux instruments juridiques qui créent des incitations à l'investissement, qui créent des afflux des investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau de l'application de cette législation où on constate qu'il y a des pratiques parfois qui sont contraires à ce qui est prévu dans les codes des règlements miniers, ou même on a constaté par exemple qu'au niveau d'entreprises publiques qui détenaient certaines concessions minières, ils commencent à conclure des accords de partenariat avec des clauses qui sont défavorables aussi bien à elles-mêmes qu'à l'ensemble du pays. Là, ce sont des pratiques qui doivent être décriées, qui doivent être corrigées, mais cela ne doit pas s'appeler forcément comme étant une réforme du secteur minier. Ça, ce n'est pas une réforme du secteur minier, mais c'est plutôt la correction, la lutte contre l'impunité des pratiques qu'il y a, qui vont parfois à l'encontre des dispositions prévues par les nouveaux codes miniers. Et là, c'est un problème des gouvernants, du gouvernement, de l'État, de pouvoir s'imposer, d'avoir une administration minière qui est efficace, qui doit arriver à corriger toutes ces irrégularités qu'on est en train de constater au niveau du secteur minier congolais. Mmh. Mais cela ne doit pas s'appeler forcément à réformer le secteur minier, parce que nous sommes en pleine réforme du secteur minier. Cette réforme-là a été matérialisée par la publication en 2002 du nouveau code minier, qui a été suivi en 2003 par les règlements miniers. On a mis en place les cadastres miniers, on a créé d'autres institutions spécialisées, même des institutions qui sont chargées d'encadrer les small scale mining, donc les exploitants privés. On a reconnu officiellement l'exploitation artisanale des minerais. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été d'innovations qui ont été introduites dans le nouveau code minier pour permettre que ce secteur puisse jouer le rôle moteur de la croissance de l'économie congolaise.
Donc,
au niveau de l'application où les problèmes se posent,
uh-huh.
et là où les gouvernements ne doivent pas aussi mettre en application, utiliser dans un mauvais sens leur pouvoir pour détourner ce qui est prévu dans les codes des éléments miniers.
Ok. Vous estimez que du côté de la loi, tout est ok, mais la question se pose au niveau de l'application de la loi.
C'est au niveau de l'application de la loi. Peut-être la loi peut comporter parce qu'il fallait quelques imperfections. Ça, c'est surtout d'être corrigé. Mais globalement, nous avons un code minier qui crée des incitations à l'investissement qui permettent que les choses se déroulent normalement. Et ce code minier est passé par le Parlement, il a été promulgué normalement.
Merci, monsieur Lent. Nous allons prendre madame Karina. Il y a une question qui vient de tomber sur la table tout de suite là, qui vous est adressée, monsieur Lent. C'est pourquoi on n'applique pas la loi? Peut-être que ce n'est pas à votre niveau de répondre, mais peut-être avez-vous quelque chose à dire.
Oui, effectivement, si on n'applique pas la loi, c'est ce qui est dans ce rapport-là. Je partage cette analyse-là. Mmh. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent qu'être ministre, être dans l'entourage du chef de l'État, être par exemple un responsable au niveau de l'administration minière, c'est une aubaine. Donc, ce sont les gens qui, au lieu de faire respecter la loi, ils pensent plutôt à leurs intérêts personnels. Mmh. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, si vous allez au cadastre minier, vous sollicitez une concession. Quand on vous accorde une concession minière, on vous donne 3 ans comme étant une période de recherche. Alors pendant ces 3 ans, vous ne pouvez pas faire de l'exploitation. Mais qui doit faire ce contrôle? L'administration minière. Mais il se trouve qu'il y a des détenteurs de titres miniers qui se trouvent pendant la période de recherche, mais qui sont en train d'exploiter les produits miniers. Alors, il faut arriver à interdire cela. Nous avons eu un exemple au Katanga, le gouverneur du Katanga, le nouveau gouverneur. Il a pris mesure pour interdire l'exportation des produits bruts. Donc là, il n'a fait qu'appliquer, faire respecter la loi.
Mmh.
Alors, si on ne fait pas, c'est-à-dire, ce sont les autorités, ceux-là qui doivent administrer les codes miniers, qui deviennent complices parce qu'ils cherchent un enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général.
Merci.
C'est là que l'État doit intervenir pour sanctionner ces ministres, toutes ces personnes-là qui interviennent, même certains mandataires publics qui sont en train de tricher et qui sont en train de défavoriser aussi bien les entreprises que la nation congolaise.
Ok. Madame Karina Terchatian, responsable du programme RDC pour Global Witness, vous venez de suivre l'intervention de M. Lens Kamonia. Il est expert économique et chargé de projet au COPIREP. Alors, peut-on parler de correction comme il le propose ou alors de la réforme? Allô? En tout cas, pour la seconde fois, je constate que Mme Karina n'est pas avec nous. Monsieur Joseph Bobia, coordonnateur du réseau des ressources naturelles en RDC, que pouvez-vous ajouter à l'intervention de M. Lem Kamonia? La loi, elle est bonne, mais c'est l'application qui pose problème. Alors, selon M. Lem, ce qu'il faut dire, c'est plutôt la correction et non la réforme.
Oui, je crois que nous n'allons pas discuter sur les termes réforme ou correction. Mais il se pose effectivement un problème d'application sur le terrain.
Mmh.
Et en suivant monsieur qui vient de parler tout à l'heure, là,
monsieur Lemskamonia,
je me rends compte que il y a cette loi, le code minier et ses mesures d'application, et ce code et ses mesures d'application, nous savons que ils sont verrouillés pour une certaine période. C'est juste pour permettre aux investisseurs, sécuriser les investisseurs. Mais on sécurise les investisseurs,
oui,
pour qu'ils viennent travailler, pour qu'ils investissent. Mais attention, de l'autre côté, il y a aussi les communautés locales, il y a aussi les pays qui attendent quelque chose de cet investissement. Nous, société civile, nous avons organiser un atelier à Lubumbashi, c'était en 2005. Et là, nous avons passé en revue cette loi minière et les mesures d'application. Nous sommes parvenus à une conclusion selon laquelle, du fait que la loi n'est pas appliquée, du fait qu'on sécurise beaucoup plus les investisseurs, on dirait, on arrive à une autre forme de pillage des ressources minières de la RDC.
Mmh.
Alors, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, même si on doit être pour la sécurité des investisseurs, il n'y a pas moyen de prendre d'autres mesures correctives qui puissent permettre à l'autorité d'appliquer
qui puisse permettre à l'autorité de faire respecter cette loi, qui puisse permettre à l'autorité de contraindre même ces investisseurs-là qui foulent cette loi au pied.
Donc il fallait réformer la loi.
Effectivement, il faut réformer la loi.
Ok. Nous allons prendre une question qui nous vient d'un auditeur qui nous appelait à partir des Kavumu dans les Suds Kivu.
Ce qui lui fait de Boutembo, la question est la suivante. Croyez-vous que le gouvernement peut faire une bonne gestion d'un secteur enrichi et grand nombre de politiciens congolais?
Alors là, je me suis trompé. Donc c'est un auditeur de Boutembo dans le Nord Kivu qui veut savoir si réellement vous croyez que le gouvernement peut réellement réussir la réforme de ce secteur minier. Réponse avec M. Lens Kamoya, parce que Mme Karina n'est toujours pas avec nous.
Si le gouvernement n'est pas capable de réussir cette réforme ou de faire respecter la loi, moi je me demanderais en quoi il est gouvernement. Pourquoi on l'appellerait pouvoir public? Pourquoi on parlerait de la puissance publique? Moi je crois que c'est toute la question qui doit remettre en cause la crédibilité ou la valeur du gouvernement vis-à-vis de l'opinion publique. Parce que si un gouvernement n'est pas là pour faire appliquer l'effectivité des lois, à ce moment-là, nous devons les décrier, nous devons les dénoncer, on doit demander que ce gouvernement puisse démissionner. Mais la réalité est que sur le terrain, nous avons en place dans notre pays, ça il faut le reconnaître, un système tel que ceux qui sont aux commandes, d'ailleurs, il faut les remarquer, une fois que les gens sont nommés, ce sont des faits par-ci par-là, on pense que c'est le moyen le plus facile de s'enrichir. Les ministres pensent qu'ils ne peuvent pas signer inutilement parce qu'ils sont là pour s'enrichir. Ils n'ont pas ce souci de relever de grands défis pour qu'ils laissent des empreintes positives pour qu'on puisse parler d'eux. Moi, je crois, c'est à ce travail-là que les gens de la société civile, les ONG de développement et même toute l'opinion, la presse, c'est là qu'il faut commencer à décrier. Nous devons contribuer tous au changement de ce pays et ne pas laisser assister de manière peut-être innocente, peut-être complice ou naïve à l'assassinat d'une caste au pouvoir parce qu'ils ont les pouvoirs. Mais non, nous devons les décrier. Si dans toutes les démocraties du monde, les choses changent, vous trouvez un ministre qui a triché, un haut responsable qui est en train de violer la loi, que la presse, les ONG, la société civile aient ce courage-là de crier, de publier cela, et je crois que ça va arrêter les choses. Mm-hmm. Et si nous ne procédons pas ainsi, nous allons continuer à être opprimés, et nous allons commencer à s'ouvrir, à souffrir et à assister à une classe qui est en train de s'enrichir. Moi, je crois que si le gouvernement ne le fait pas, alors ce n'est pas un gouvernement. Il doit être appelé à démissionner. Nous voyons à travers le monde, si un ministre commet un grand scandale, ça remet en cause toute la crédibilité du gouvernement. Pourquoi pas ici chez nous? La démocratie doit s'appliquer aussi à ce niveau-là. Quelqu'un, s'il est ministre, si nous avons un gouvernement, ce gouvernement a des responsabilités, a une liberté qui s'arrête là où commence celle de ses citoyens. Et s'il y a des choses qui ne sont pas correctes au niveau du gouvernement, pourquoi on ne doit pas les décrier? Moi, je crois qu'il faudrait commencer par cela. Mais je voudrais, avant de terminer, parce que je voudrais répondre un peu à notre ami de la société civile qui a dit, voilà, le code, il est verrouillé pour une certaine période. Effectivement, le code est verrouillé pour 10 ans. Pourquoi c'est 10 ans? Je vais donner juste une petite explication-là. Tantôt là, je vous ai dit, lorsque quelqu'un a une concession minière, on lui accorde 3 ans pour faire la recherche. Parce qu'avoir une concession minière, c'est une chose. Savoir qu'il y a des produits ou des substances minérales qui peuvent être exploités à l'échelle industrielle, c'est une autre chose. À ce moment-là, déjà, on donne 3 ans à la personne ou à l'investisseur pour procéder à la recherche, savoir si effectivement il y a des substances minérales, s'il peut exploiter en quantité industrielle, s'il peut mettre en place une usine. Dès qu'il a fait ses recherches, il faut construire une usine. Vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas des industries qui produisent des biens d'équipement. Dans quelle ville, à Kinshasa, à Lubumbashi, où est-ce qu'on peut avoir les unités de production qui peuvent nous permettre aujourd'hui de transformer les produits naturels en produits finis? Il faut les importer. Ça demande un certain temps. Le temps que ça vienne, que vous puissiez monter votre usine, que vous puissiez vous mettre à produire et récupérer ce que vous avez fait, je crois qu'il y a un temps qui est suffisamment long qui doit se passer. Et quelqu'un, quand il a investi, il doit s'attendre à avoir un retour sur investissement. Parfois, pour investir, il doit contracter un crédit à certaines conditions. Mais toutes les études qu'il doit faire, les études de faisabilité technique et financière, la mise en place d'une unité de production, arriver à produire la première tonne de cuivre, ça vous demande pas moins de 4 ans ou 5 ans. Et avant que vous ne puissiez commencer à fonctionner et à récupérer vos revenus, je crois que les 10 ans, ce n'est pas une période qui est assez exagérée. On ne l'a pas fait pour sécuriser les investisseurs, mais on prend en compte les conditions qu'il faut réunir pour passer à une véritable exploitation industrielle.
Monsieur Joseph, vous pouvez avoir réagi.
Voilà.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais tout ce temps-là, il faut aussi songer qu'est-ce que le pays perd. Est-ce que par rapport à tout ça, il faut accepter que les brutes sortent du pays pour aller être traités en dehors d'ici? Oui, ce sont autant de compagnies, autant de ces investisseurs qui arrivent, qui signent de contrats et qui, au lieu de respecter ce que la loi dit ici, elle est sur place en RDC, ils sont prêts à sortir avec le brut pour aller les traiter en dehors. Ben, je comprends très bien qu'ils doivent tous préparer, faire la prospection, investir, commencer, et puis quelques temps après commencer à gagner. Mais pendant tous ces temps, 10 ans, je me dis, qu'est-ce que le pays gagne? C'est ça le problème. Les communautés locales croupissent dans la misère, dans la pauvreté la plus noire. Mais qu'est-ce qu'on gagne?
Comme dit Mme Karina Dertiakien, responsable du programme RDC pour Global Witness, est finalement au téléphone. Bonsoir, madame.
Oui, bonsoir.
Alors, nous sommes suffisamment avancés. Là, nous sommes en train, les invités sont en train de répondre à la question posée par un auditeur qui veut savoir si réellement le gouvernement congolais, si vous, Global Witness, vous croyez réellement que le gouvernement congolais, cette fois-là, va rectifier les tirs dans ces domaines-là? Parce que je vois votre rapport où vous dites les gouvernements passés, y compris le gouvernement de transition au pouvoir jusqu'à la fin de 2006, se sont concentrés sur l'exploitation des ressources naturelles, des fins d'enrichissement personnel, la corruption généralisée à tous les niveaux dans les secteurs miniers et forestiers est l'une des causes fondamentales de cette mégestion et de ces abus. Des politiciens de haut niveau se sont souvent associés de manière active à des actes de corruption ou, dans les meilleurs des cas, ont fait de les ignorer. Alors, cet auditeur veut savoir, finalement, cette fois-là, êtes-vous sûr que le gouvernement va accepter de pouvoir rectifier les tirs?
Bon, à mon avis, il est absolument essentiel pour le gouvernement de mettre fin à tous ces abus et ces crimes, même qui ont été commis par rapport à l'exploitation des ressources naturelles pendant la guerre, mais également pendant la période de transition. Alors, il y a, je pense, après les élections et après l'installation du gouvernement, une occasion qu'il faut absolument saisir. Le gouvernement a le devoir de le faire, et je pense que tous les Congolais, ainsi que la communauté internationale, seront en train de regarder de très près ce qui se passe. Alors, ce qui est encourageant, c'est que le gouvernement s'est quand même engagé dans la bonne voie, du moins au niveau de la théorie, par exemple dans le contrat de gouvernance qui a été présenté par le Premier ministre au mois de février. Le gouvernement s'est engagé dans la lutte contre la corruption, pour la justice, etc. Mais bon, les belles paroles ne suffisent pas, bien sûr. Et il faut maintenant que toutes ces promesses soient mises en exécution.
Ok, les bonnes paroles qui ne suffisent pas, comme vous venez de le dire, et nous avons vu avec vos collègues invités, notamment M. Lens Kamoya, qui estime que les codes miniers congolais, il est bon, et même très bon, mais les problèmes se posent au niveau de l'application de ces code minier. Voilà pourquoi il propose de parler plutôt des corrections au lieu des réformes. Qu'est-ce que vous pensez?
Je pense qu'il faut parler des deux choses. Bien sûr, tout le monde sait que le code minier n'est pas appliqué ou est appliqué d'une manière très très incomplète. Et le premier devoir du gouvernement, bien sûr, c'est de s'assurer que les lois soient respectées. Ça, c'est le devoir fondamental de tout gouvernement. Mais je pense que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des problèmes qui vont bien au-delà du code minier. Par exemple, les problèmes de corruption fondamentale à tous les niveaux des différents services qui sont impliqués dans la gestion ou la mégestion des ressources naturelles. Il y a également le problème des contrats. Je crois que l'un de vos intervenants a fait référence à cela tout à l'heure. les contrats qui ont été signés de manière illégale ou des contrats qui ne profitent pas à la population, certains qui ont été désignés dans le rapport Lutundula qui n'a toujours pas fait l'objet de débat à l'Assemblée et encore moins l'objet d'action de la part du gouvernement. Donc, de toutes ces choses-là, je pense, doivent être étudiées urgemment et il y a là de grandes questions qui vont bien au-delà du cadre spécifique du code minier.
Ok. Vous restez avec nous, hein, Madame Karina. Restez avec nous au téléphone. Le temps de prendre M. Lenz Kamonya. Madame Karina vient d'évoquer les rapports Lutundula. Ce rapport, quand il a été publié, en tout cas, fait grand bruit, mais après, il n'y a plus rien. Comment expliquez-vous ce silence? Pensez-vous qu'un jour, l'actuelle Assemblée nationale va se saisir de ces rapports?
Oui, je ne sais pas si l'Assemblée nationale va se saisir de ces rapports, mais moi, je crois que les premiers ministres avec les ministres des Mines, ils peuvent, comme dans ces secteurs d'intervention, ils peuvent remettre ces rapports sur la scène et commencer à explorer les solutions qui sont contenues, donc arriver à passer à des corrections. Parce que dans ces rapports, ce qui est important à savoir, la plupart des contrats qui ont été signés, qui sont déclarés comme des contrats léonins, ce sont des contrats passés par les entreprises publiques avec le secteur privé. Et la plupart des responsables d'entreprises publiques n'avaient pas les mains libres dans les négociations. Mmh. C'est ainsi qu'on a assisté au bradage des ressources naturelles de ces entreprises-là, à une cession de leur concession minière à des valeurs dérisoires. Ce qui fait que les gens se demandent comment se fait-il qu'un partenaire qui arrive, sans qu'il y ait une évaluation quelconque, il dit voilà, moi je prends telle concession, moi j'ai 80% et l'entreprise qui est pour la concession aura 20% dans la société commune qui sera créée, alors qu'il n'y a aucune évaluation. On a cité le cas de la Sengamine, on a cité le cas de plusieurs contrats signés par la Gécamine, où la Gécamine qui était propriétaire des concessions, aujourd'hui elle se retrouve être dessaisie de la plupart de ses concessions, ce sont plutôt les partenaires qui deviennent maîtres de ses concessions avec ses titres miniers. Ce sont des choses qui ont été décriées, mais comme vous le savez, ça s'est passé en période de guerre où ceux qui étaient aux commandes pensaient que pour avoir les moyens, d'une façon de faire, c'était de brader les ressources naturelles afin d'accéder aux moyens pour acheter les armes et tout ça. Maintenant qu'on a un gouvernement légitime qui est issu des urnes, je pense que les gouvernements calmement et n'attaquerait cette question à froid, passer à la lecture de tous ces contrats, voir des corrections qu'il faut y introduire, d'autant plus que la plupart des contrats ont été signés avec des partenaires qui n'ont pas de pignon sur rue, qui n'ont pas de référence internationale. Ce sont des commissionnaires qui sont venus, ils ont signé, ils cherchent maintenant de véritables investisseurs à l'extérieur. Mais pourquoi les gouvernements traînent les pieds? Mais ça, c'est pourquoi j'ai dit ça, ce n'est pas une révision du code minier. Ça, c'est plutôt un problème, comme madame l'a dit, de faire respecter les lois. Et ça, c'est la tâche du gouvernement, la tâche première, c'est celle-là.
Okay.
Moi, je ne sais pas pourquoi les ministres traînent ou les premiers ministres traînent. Ils n'ont qu'à passer à l'action.
Merci.
Au-delà du rapport où tout nous, là, il y a d'autres évaluations qui ont été faites sur la plupart de tous ces contrats qui existent.
Merci. Comment le secteur minier peut participer au développement de la RDC? C'est la seconde partie de cette émission. Quelle est la part du secteur minier dans les budgets de l'État congolais? Guy Roger nous donne une esquisse de réponse. Suivez.
Le secteur minier en République démocratique du Congo est une source importante pour le budget de l'économie nationale eu égard aux énormes potentialités minières que regorge la RDC. En guise d'illustration, on peut citer notamment les ressources minières du Katanga où l'on trouve le cuivre, le fer, le manganèse et le cobalt, le diamant dans le Deux-Kassai, dans le Bandundu et en province orientale, l'étain, le coltan, le gaz méthane au nord et au sud Kivu, le bauxite et le pétrole dans le Bas-Congo, sans oublier l'or dans la province orientale pour ne citer que cela. Selon plusieurs sources, la RDC dispose 50% des réserves mondiales de cobalt, 10% de cuivre ainsi qu'un potentiel important en or, en uranium et en manganèse. Ces ressources minières sont vitales pour le développement du pays. En effet, après sa nationalisation en 1973, l'Union minière du Haut-Katanga, devenue Gécamine, a porté 60% des recettes à l'économie zaïroise à l'époque. Suite à l'effondrement de ses entreprises en 1993, son apport est quasi nul dans le budget de l'État. En 1997, avec l'entrée de l'RTL, les exportations du cuivre font place à celles du diamant de l'AMIBA. Selon un ancien président administrateur délégué de l'AMIBA, cette entreprise a atteint une production de 9000 carats par mois, l'équivalent de 8 millions de dollars américains mensuellement. En 1998, l'AMIBA devient ainsi la plus importante source de devises pour le pays. De 1999 à 2000, l'évolution du coltan provoque la ruée des petits mineurs à l'est du pays. Plus de 19 comptoirs voient le jour sous la supervision des ex-belligérants. En 2001, avec l'actuel président, certaines entreprises minières gérées par les ex-rébellions reviennent petit à petit sous la gestion du gouvernement central. Cependant, cela ne permet pas de connaître exactement l'apport de chacune d'elles au budget de l'État. Comme l'indique du reste Global Witness dans son rapport de réforme publié en mars 2007, il est difficile de donner le montant exact sur ce que les entreprises minières versent dans la caisse de l'État. Selon cette ONG, les systèmes fiscaux en vigueur dans le secteur des ressources naturelles, notamment le dispositif d'acheminement des recettes vers le budget de l'État, sont généralement opaques, une opacité qui favorise la corruption.
Merci Guy Roger. Selon un ancien responsable de la MIBA, le secteur minier a pris une part très significative dans les recettes de l'État. À l'entendre parler, les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Jean-Charles Okoto Lacombe, ancien PAD de la minière de Bakwanga, a été joint par Guy Roger Nyampala.
Je crois que c'est un secteur assez mouvementé. Ça dépend du marché mondial, comme nous l'avons toujours dit, qu'il faut une révolution énorme économique internationale, parce que nous produisons le produit, nous avons le produit, mais la commercialisation appartient à des grandes nations. Ce qui fait qu'une fois que les grandes nations décident autrement ou freinent un développement d'un pays, ou arrêtent des stratégies pour que le produit ne soit pas bien exploité, les répercussions ultérieures tombent sur le pays producteur. Autant vous dire que l'avenir du secteur minier est pendu sur la ceinture des puissances occidentales. Et pour parlons de la MIBA, plus précisément, là où j'ai eu la chance ou le malheur de pouvoir diriger pendant 2 ans et demi, je crois que le secteur minier a contribué énormément sur le plan national. Et puis la production à ce temps-là était à peu près aux environs de 900 à 1000 carats par mois sur le plan national. Je crois que le secteur minier a contribué efficacement pour tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tant au niveau de l'infrastructure routière, les peu de réalisations que Mobutu a pu réaliser à l'époque, c'est grâce au secteur minier. S'il faut compter sur l'essor de notre économie demain, je suis presque certain que j'ai un penchant sur d'autres secteurs dont je vous ai énuméré, comme l'agriculture, comme d'autres secteurs.
Ok, Madame Karina, vous venez de suivre d'abord notre confrère Guy Roger Nyampala et aussi Monsieur Jean-Charles Honorable Jean-Charles Okoto Lacombe qui est actuellement est député à l'Assemblée nationale. Il fut donc président administrateur délégué de la minière de Bakwanga, la MIBA. Un autre problème qui se pose donc, en dehors du fait qu'on ne sait pas aujourd'hui, combien les secteurs miniers contribuent aux recettes de l'État, mais aussi, selon M. Jean-Charles Okoto, l'autre problème, c'est que les prix des matières premières est fixé par l'étranger. J'ai essayé de feuilleter rapidement votre rapport, cela n'est pas dit quelque part, je ne sais pas, peut-être que je suis passé très très vite.
Oui, en fait, nous avons essayé dans notre rapport de voir plutôt les problèmes d'ensemble et les réformes qui seraient nécessaires au niveau du gouvernement lui-même. C'est un document adressé au gouvernement congolais et non aux acteurs internationaux ou aux opérateurs économiques cette fois-ci.
Okay.
Mais je pense qu'il y a certains problèmes encore plus élémentaires, si je peux dire, qui n'ont pas été cités dans l'intervention là de l'honorable Okoto. Notamment, bon, on peut dire que, par exemple, le secteur minier a contribué, comme il vient de le dire, si j'ai bien compris, mais contribué de quelle manière je pense que c'est, quand on voit la situation économique du pays, c'est quand même inconcevable qu'un pays si riche en ressources naturelles reste si pauvre et qu'on voit dans certaines régions qui sont les plus riches en minerais, notamment au Kasaï par exemple, que la population vit dans des conditions de misère, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école et tout ceci est vraiment inconcevable pour quelqu'un qui voit cela de l'extérieur. Donc je pense que là, plusieurs gouvernements. Bon, on peut remonter jusqu'à Mobutu, mais plus récemment même jusqu'au gouvernement de transition. Ces gouvernements ont porté atteinte à un droit fondamental qui est garanti dans la constitution congolaise, dont l'article 58 précise que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement, ce qui n'a pas été fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer la situation? Bon, la première chose, bien sûr, c'est d'augmenter les recettes à l'État du secteur minier, et ceci en s'assurant que les taxes sont payées correctement, que les exportations soient déclarées correctement.
Et que l'argent est utilisé correctement.
Mais exactement. Alors ça, c'est la deuxième chose qui est tout aussi importante. Ça ne suffit pas d'avoir les recettes qui sont payées, mais ensuite, cet argent doit être utilisé et redistribué correctement. Et actuellement, cette situation, malheureusement, n'existe pas. Donc même s'il y a eu des petites améliorations, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Ok. Merci. Monsieur Joseph Bobia, vous êtes coordonnateur du réseau des ressources naturelles à RDC. Vous êtes donc de la société civile. Vous partagez entièrement l'analyse de, ou bien l'apport, la réaction de Mme Kanina.
Oui, je voudrais d'abord intervenir par rapport à la réaction de l'honorable Koto.
Très rapidement.
En disant qu'il faut miser sur d'autres secteurs. Je crois si on met de l'ordre dans le secteur minier, on peut encore faire de l'argent pour ce pays. Mmh. Et je me pose la question, pourquoi autrefois il y avait suffisamment de l'argent et maintenant ce secteur ne peut pas produire? C'est-à-dire qu'il y a du désordre. Si on arrive à revoir, à corriger, comme l'a dit l'homme de Copirep, les contrats, il y en a qui sont signés, beaucoup de contrats, pour voir qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous perdons. Si on revoit tous ces contrats, je crois, au bout d'un temps, il y aura de l'argent qui va rentrer dans ce pays. Je partage l'avis de
Madame Carina,
oui. Il faudrait... Je dirais que notre pays a souscrit depuis 2005 à ce processus de la gestion des industries extractives, bonne gestion des industries extractives. Oui, bien sûr, c'est un processus volontaire. Mais quelque part, bien qu'on souscrive, il faudrait qu'il y ait quelque part des mesures contraignantes pour faire avancer les choses. C'est-à-dire quoi? Les compagnies qui opèrent, qui contractent des contrats, payent quelque chose à l'État. Il faudrait que ces compagnies publient ce qu'elles payent, ce qu'elles versent à l'État. Et l'État, de son côté, devrait aussi mettre à la disposition du public ce qu'il a perçu de toutes ces compagnies pour qu'entre les deux informations, qu'on fasse des recoupements pour arriver à voir combien l'État a perçu et combien il a utilisé. Et sans doute, vérifier aussi l'affectation de ce fonds. Voilà, c'est là une base de démocratie, une base de transparence. Alors, il faudrait arriver à l'instaurer, mais comme le processus est encore volontaire, il faudrait à l'État, au gouvernement, de définir deux mécanismes pour contraindre à faire avancer les choses.
Merci. Monsieur Lems Kamonia, nous sommes en train de répondre à la question de savoir comment les secteurs miniers peuvent participer au développement de la RDC. Vous venez de suivre Mme Karina ainsi que Monsieur Joseph Bobia. Votre réaction?
Oui, moi je dirais par ordre d'importance. La première des choses, actuellement il y a un désordre qui règne dans les secteurs miniers. L'exploitation, elle se fait un peu de manière anarchique. Je crois qu'il faut mettre fin à ces désordres. Une deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse éviter dans la mesure du possible qu'on puisse exporter des produits bruts. Nous ne sommes pas une économie de cueillette. Nous avons des ressources naturelles que nous considérons comme des ressources potentielles. Il faut les transformer en ressources réelles, c'est-à-dire en produits élaborés, ce qui va pousser les investisseurs à mettre en place des unités de production, à créer des usines, à créer des entreprises. Lorsqu'on va créer ces usines, ces entreprises, on va donner de l'emploi aux Congolais. Et ça, c'est déjà une première voie de réduction des revenus. Une deuxième voie, lorsque vous travaillez, vous devez payer l'impôt sur la production, ça va rentrer dans les caisses de l'État. L'entreprise qui va faire des bénéfices va payer l'impôt sur les bénéfices avec tout ce qu'il y a comme série de taxes. Ça, c'est une autre voie. On ne va pas exporter des produits bruts qui n'ont pas de valeur ajoutée. consistante, mais on va plutôt exporter les produits élaborés. Ça va améliorer nos recettes en devises. Nous ne devons pas nous retrouver dans notre pays ici, être à la recherche de devises, parce que la plupart de nos produits sont vendus sur le marché international. Notre pays devrait avoir une quantité importante de devises. La Banque centrale ne devrait pas aussi rester du reste avec le système bancaire. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui exportent, combien rapatrient les revenus de leurs ventes au pays? Moi, je crois que la plupart d'entre elles, dernièrement, le gouvernement de la Banque centrale a publié un rapport sur plus de 60 entreprises qui existent, minières qui existent. Seule une trentaine, soit 10% seulement, arrive à rapatrier quelque chose du produit des ventes à l'extérieur, ce qui est contraire. Or, ce qui fait qu'on se retrouve parfois dans un marché où on est en train de chercher les devises, alors que nous avons une économie, du fait qu'elle soit tournée vers l'extérieur, elle peut rapporter davantage de devises.
Okay.
À ce jour, notre ami l'a posé la question. Si on ne met pas en place une véritable exploitation industrielle, qu'est-ce que le pays peut gagner? Vous direz au cadastre minier, on vous dira qu'avec tout ce qui est accordé comme concession, annuellement, les revenus obtenus par l'État sont de 35 millions. Mais lorsqu'on passe à une véritable exploitation, on ne peut pas récupérer pas moins de 1 milliard de dollars au niveau du secteur minier.
Okay.
C'est vraiment mettre de l'ordre et chercher par tous les moyens à contrôler tout ce qui se passe comme opération dans les secteurs.
Merci. Nous accueillons dans ce studio la porte-parole de nos auditeurs. Bonsoir Pamela Amonazo.
Bonsoir Pélé.
Que disent nos amis ce soir?
Avant de commencer, j'aimerais m'excuser auprès d'eux. On a eu beaucoup de réactions.
Malheureusement, on ne va pas tout lire.
Justement.
Eh oui.
Je commence par Chibalonja de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, qui pose cette question. Pourquoi le gouvernement ne contrôle pas la société Banron, qui pille systématiquement de notre province? Proche pose la question suivante. Quelles sont les conditions pour attribuer un foyer minier à une entreprise? Et enfin, un autre auditeur dit ceci. Si le gouvernement arrivait à canaliser toutes les recettes du secteur minier dans le trésor public, la RDC ne se plierait plus aux exigences des étrangers pour chercher des fonds à allouer au budget.
Merci Pamela, les auditeurs auront compris que vous avez été chiche ce soir, mais bon, le temps est passé vite. Nos auditeurs, nos invités vont avoir chacun une minute de réagir. Vous venez de suivre les opinions de nos auditeurs, vous allez réagir, Madame Karina.
Oui, alors juste un dernier point d'abord pour souligner l'urgence des réformes, et en particulier la question de la révision des contrats. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que si on révise les contrats et qu'on annule ou qu'on modifie sensiblement les contrats pour qu'ils puissent profiter à l'ensemble de la population et au pays, je pense que ce serait déjà un pas très important vers une meilleure gestion et redistribution des ressources du secteur minier.
Ok. Monsieur Joseph Fobia, coordonnateur du réseau des ressources naturelles en RDC.
Oui, je crois, après les élections, il y a des responsables qui ont été élus, choisis par les populations. Et les populations attendent voir ces dirigeants, ces personnes que jeter à l'eau pour mettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans le secteur minier, pour que ce secteur rapporte énormément de l'argent. Il y a cet auditeur qui pose la question par rapport pourquoi le gouvernement ne contrôle pas Banro. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'illégalités sur le terrain. Donc, c'est une interpellation du gouvernement. Voilà. Donc, c'est un électeur qui interpelle le gouvernement.
Merci. Monsieur Len Kamoya, expert économique et chargé des projets au COPIREP, comité des pilotages de la réforme des entreprises publiques.
Oui, merci. Je dirais que effectivement, le secteur minier, c'est un secteur non seulement porteur de la croissance de notre économie, mais il est un grand pourvoyeur de recettes, surtout au niveau du trésor public. Si on y met un peu d'ordre, l'État et les gouvernements se rendront compte qu'ils auront beaucoup de moyens pour qu'on ait une indépendance économique et pourquoi pas une indépendance politique de notre pays. Voilà.
Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Nous avons traité le thème réforme du secteur minier. L'ONG Global Witness propose un programme au gouvernement congolais. Quelles sont les raisons qui militent pour la réforme du secteur minier congolais? Comment le secteur minier peut participer au développement de la RDC? Ce sont les deux questions qui ont alimenté les débats ce soir. Nous disons merci à nos invités, Madame Karina Terchakian, responsable du programme RDC pour Global Witness, M. Joseph Obia, coordonnateur du réseau des ressources naturelles en RDC, et enfin M. Lens Kamonia, expert économique et chargé des projets au COPIREP, comité des pilotages de la réforme des entreprises publiques. À nous revoir demain à la même heure, même fréquence. Bonsoir chez vous.
Diffusion de cette émission des dialogues entre Congolais demain matin à 4h45 heures de Kinshasa. Vous trouvez aussi cette émission Dialogue entre Congolais sur notre site internet radiocapu.net et sur Rente Courte sur 111 690 MHz. Thank you.